Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 23 avril 2022. Pour la deuxième semaine consécutive, les militaires du régime israélien se sont pris violemment aux fidèles palestiniens sur l'esplanade des mosquées dans la ville sainte de Rouz. Les forces d'occupation israéliennes ont utilisé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes contre les fidèles palestiniens. Des dizaines de Palestiniens ont été blessés, dont certains grièvement. Dans ce contexte, le mouvement de la résistance islamique de la Palestine Hamas a appelé la communauté internationale à prendre des mesures efficaces pour faire stopper les atrocités israéliennes. Alors, lors d'une réunion du Conseil de sécurité, l'ambassadeur d'Iran à l'ONU a également appelé la communauté internationale à intervenir contre l'entité israélienne. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur les derniers développements et tensions dans la ville sainte de Rouz. Et bien entendu, la perspective d'une troisième intifada contre l'entité israélienne. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Israël déclare la guerre à l'entité sioniste. Les exactions de l'occupation israélienne contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée et dans la sainte mosquée Al-Aqsa laissent penser que l'heure zéro est très proche, l'heure à laquelle Gaza entrera dans la bataille. Le prélude est déjà là après 3 jours de tirs de missiles d'avertissement depuis la bande de Gaza ces derniers jours et l'incapacité d'Israël à les intercepter. Mais qu'en est-il de Rouz et de la Cisjordanie? Les médias palestiniens ont rapporté ce vendredi matin que l'armée du régime sioniste avait affronté à plusieurs reprises les Palestiniens à la mosquée Al-Aqsa. Selon les sources d'information, les forces de Tel Aviv ont tiré des balles en caoutchouc sur les fidèles palestiniens à l'intérieur de la mosquée sainte de Rouz. Le Croissant Rouge palestinien a annoncé dans un communiqué que 27 Palestiniens ont été blessés, dont 2 sont dans un état grave et 11 autres ont été transférés à l'hôpital. Cependant, les médecins déployés dans la mosquée Al-Aqsa ont déclaré que 43 Palestiniens avaient été blessés. Le site web Arab 48 a rapporté que les forces sionistes ont fermé toutes les portes d'entrée de la mosquée, ne permettant aux fidèles d'y entrer. L'agence de presse palestinienne Shehab News a rapporté que des milliers de citoyens palestiniens se rendent à la mosquée Al-Aqsa par la porte Bab al-Amoud pour effectuer la prière du vendredi. Quelques heures plus tard, la Société du Croissant Rouge palestinien a déclaré dans un communiqué que 151 Palestiniens ont été blessés par des balles en caoutchouc tirées par les forces du régime sioniste. Après la prière du vendredi, la mosquée Al-Aqsa a été le théâtre d'un rassemblement de dizaines de milliers de Palestiniens scandant des slogans contre l'occupation sioniste. En Jordanie voisine, des milliers d'habitants de la capitale Amman sont descendus dans la rue après la prière du vendredi en scandant des slogans contre les crimes du régime sioniste. Les manifestants ont demandé l'expulsion de l'ambassadeur du régime sioniste de Jordanie et l'annulation du traité de Wadi Araba signé en 1994 entre Tel Aviv et Amman. Dans le même ordre d'idées, le porte-parole des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, Abu Muhammad, a confirmé que les opérations héroïques antisionistes se poursuivaient à l'intérieur des territoires occupés. Il a déclaré à Al-Mayadin que les factions de la résistance répondront aux attaques de l'occupation et ne resteront pas sans rien faire à Gaza, soulignant qu'Israël paiera un lourd tribut à son arrogance.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Toulouse avec Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue. Et depuis Paris avec Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales. Madame Armidani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous pour votre invitation. Bonjour à vous, à toute l'équipe Presse TV, à Monsieur Dortiguier aussi et l'ensemble des téléspectateurs.
Madame Ideni, pour la deuxième semaine consécutive, les forces d'occupation israéliennes ont fait irruption dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, s'en sont prises aux fidèles palestiniens, des dizaines de Palestiniens ont été blessés. Alors, pendant le mois béni du Ramadan, qu'est-ce qui se cache, Madame Ideni, derrière cette recrudescence de violence et d'atrocité israélienne?
En fait, depuis le début du Ramadan, effectivement, les Israéliens commettent des exactions contre l'ensemble des personnes qui vont faire la prière à la mosquée Al-Aqsa, leur interdisent l'accès à la mosquée, leur interdisent aussi même de rester et faire des prières en dehors des heures de prière, mais aussi pendant les heures de prière, des gros affrontements avec les Palestiniens et les Palestiniennes. Il faut rappeler que les femmes palestiniennes ont aussi participent amplement à la défense d'Al-Aqsa et qu'elles ont été violemment et sauvagement attaquées par l'armée israélienne et par les colons qui, depuis le début du mois de Ramadan, font des incursions tous les jours dans la mosquée, qui piétinent, détériorent, salissent les structures, et ils commettent aussi même leurs rites talmudiques à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa. En fait, cette confrontation dure depuis le début du mois. Elle a été à son apogée pendant la Pâque, effectivement la Pâque qu'ils appellent la Pâque judaïque. Et je voudrais aussi signaler que même l'Église de la Nativité n'a pas échappé aux agressions israéliennes, puisque aussi ils interdisaient aux Palestiniens d'aller à l'église, d'aller faire la prière à l'église, hein, ce qui a fait que hier il y a eu 150 000 personnes qui sont allées, donc un appel général pour tous les Palestiniens qui le pouvaient, de venir faire une prière à la mosquée Al-Aqsa, et simultanément il y a eu autant de monde qui est allé aussi à l'église de la Nativité. Donc, l'armée israélienne était obligée de se tenir à carreau face à cette importante foule qui venait faire la prière à la mosquée Al-Aqsa, sur l'esplanade aussi. 150 000 personnes. Moi, je salue cette lutte du peuple palestinien qui affronte une armée qui est armé jusqu'aux dents, avec leurs mains vides et avec juste leur prière et sans aucune arme. Donc je salue leur courage, je salue aussi cette volonté de défendre Al-Aqsa. D'un autre côté, et aussi l'Église de la Nativité, qui sont vraiment des lieux palestiniens de culte, que l'entité israélienne veut absolument s'approprier, interdire aux Palestiniens d'y aller, ce qui est aussi une violente, une violente violation de toutes les lois humanité humaine, de toutes les lois des Nations Unies, de l'ONU et de tous les us et coutumes de respect, en fait, des rites religieux, même des peuples occupés, en fait, de colonisation. Donc ça, c'est un point important, et je crois que c'est important aussi de signaler que ceci a provoqué partout dans le monde des manifestations de soutien au peuple palestinien. Donc on a vu en Jordanie une très grande manifestation des Jordaniens qui refusent aussi toute toute naturalisation, tout rapport avec l'entité sioniste occupante qui refuse, qui demande et qui exige de l'État jordanien le retrait de cet accord de Wadi Araba, ce traité avec Israël. En Égypte, de très grandes manifestations aussi contre les rapports avec Israël qui exigent aussi l'expulsion de l'ambassadeur israélien. À Bahreïn, qui est un des pays qui a vraiment normalisé complètement les rapports avec Israël, une très grande manifestation, donc aussi de soutien au peuple palestinien et rejet de toute relation avec l'entité sioniste, rejet de toute normalisation des rapports, alors qu'ils ont vraiment normalisé totalement. Mais aussi en Algérie, aussi en Angleterre.
Merci,
aussi,
Madame Bidani.
On voit aussi dans les pays européens, il y a aussi des marches de soutien et des rassemblements de soutien au peuple palestinien.
Merci.
Y compris en France, en Angleterre et aux États-Unis.
Merci infiniment pour ces précisions, Madame Bidani. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Toulouse, Monsieur le professeur Pierre Dortguier, philosophe et politologue. Monsieur le professeur, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, c'est Colin Vendée. Bonjour à tous vos auditeurs et à Madame Mizani.
Depuis le début du mois de Ramadan, Monsieur le professeur, comme vous le savez, oui, les militaires d'entité israélienne se livrent à des actes, multiplient en effet des actes de provocation, des exactions contre les fidèles palestiniens. Mais contrairement à ce qu'ils attendent, il paraît que ces violences, ces atrocités, en effet, se sont retournés contre le régime de Tel Aviv. Alors, Madame Bidani l'a rappelé, plus de 150 000 fidèles palestiniens se sont rassemblés hier, justement, dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa pour la prière du midi. Des manifestations de solidarité avec les Palestiniens partout dans le monde, même dans les pays qui ont normalisé, dont les gouvernements ont normalisé des relations avec le régime d'occupation. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, avec ces événements, alors on assiste, que ces événements, en effet, semblent être le prélude d'une troisième intifada palestinienne?
Oui, en effet. Et le caractère de cette intifada n'est pas un caractère proprement national, au sens ordinaire du terme, mais un caractère religieux. C'est très important, parce que les Palestiniens comprennent maintenant qu'ils ont affaire à un ennemi redoutable. C'est le fanatisme sioniste, qui est un fanatisme, disons, religieux, il faut le dire, ou qui prend un aspect religieux, mais qui est, à mon avis, très réel, et qui est fondé, vous savez, sur la superstition qu'un roi viendra à Jérusalem, disons, pour rétablir une puissance, disons, en faveur des sionistes, enfin, en faveur du peuple qui a pris le pouvoir, donc, en 1948. Et ceci est très ancré maintenant, il faut le dire, dans la jeune génération israélienne. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, le matérialisme de la société a été au contraire, je ne parle pas de la société israélienne, a été, disons, un aliment à ce fanatisme-là. Je vous dois dire que cette réaction qu'a soulignée Mme Mizani, chrétienne, militée de communion, dit, que j'ai connu autrefois, et qui était en effet composé, vous le savez, à 70% de Palestiniens, mis à part la population locale, disons, qui représente 20%, disons, mais la Jordanie est en réalité, disons, une extension de la Palestine. Et donc, c'est tout à fait normal, naturel, disons, nécessaire aussi, qu'il y ait, disons, ce front spirituel. Car, voyez-vous, la lutte n'est pas simplement une lutte de partis politiques, une lutte de justice, une lutte de tribunaux internationaux, par exemple, pour donner justice à telle ou telle revendication des peuples palestiniens. Je dis bien des peuples palestiniens, c'est-à-dire bon, que ce soit les régions de Cisjordanie, les régions des premières occupées, disons, en 48, etc. Non, je crois qu'il s'agit là d'un combat vraiment spirituel au sens fort du terme, et qui donnera donnera justement, pour répondre à votre question, à cette nouvelle intifada une dimension plus importante et internationale aussi. Car je crois que les autres peuples, y compris les peuples chrétiens, en majorité, ne seront pas insensibles à cet aspect-là. Voyez-vous, tout, en fait, voyez-vous, quand il y a une injustice, le fond de l'injustice est toujours spirituel. Il a des aspects matériels, bien sûr, mais disons la faute diabolique, si je puis dire, est une faute spirituelle. C'est celle-là que l'on voit justement à la racine de la volonté de construire là-bas un État qui soit un État, disons, dirigé contre les religions. Un État qui veut, disons, domestiquer notre religion et c'est ce contre quoi, justement, le christianisme et ensuite, après lui, disons, l'islam a voulu mettre en garde. Et nous voyons, justement, aujourd'hui, la solidarité, c'est très important, des chrétiens et des musulmans, solidarité qu'un prétendu islamisme, voyez-vous, artificiel, a prétendu, disons, séparer. Là, on voit au contraire qu'il y a une dimension plus importante, une dimension irréversible, qui est la dimension spirituelle.
Merci. Merci infiniment, monsieur le professeur, pour ces éclairages. Restez avec nous. Madame Idani, alors, si vous permettez, parlons de ces pays, de cette tentative de normalisation de certains pays arabes avec le régime israélien. Bien sûr, le régime israélien chercherait alors, à travers cette normalisation, de légitimer en quelque sorte l'occupation des terres palestiniennes. Mais il paraît que, alors, plus ces pays normalisateurs élargissent les relations avec le régime de Tel Aviv, plus leur opinion publique, leur nation, en effet, intensifie des réactions et des protestations, non seulement contre le régime sioniste, mais aussi contre leur propre gouvernement. Donc là, il paraît que cette tentative de l'entité sioniste de vouloir légitimer via cette normalisation l'occupation des terres palestiniennes ne mènera à rien, d'autant plus que, justement, alors ces pays sont plus que jamais pointés du doigt dans l'arène internationale pour la trahison contre la cause et la nation palestinienne. Qu'en pensez-vous?
De toute façon, effectivement, non seulement ça ne mène à rien, mais je crois que ça, ça les mène à leur fin, mm-hmm. parce que effectivement, les peuples qui, en fait, jusqu'à présent, n'agissaient pas trop, en fait, autrement que pour la défense de leur liberté, de leurs revendications à l'intérieur du pays. Le fait qu'il y ait cette normalisation des rapports avec l'État d'Israël, avec cette entité sioniste qui est fantoche et qui est absolument illégale du point de vue de la justice, je dirais, qui continue ses rapports avec ses gouvernements, bien sûr, fait que les peuples se dressent contre ces gouvernements qui ont normalisé, qu'ils pensaient avoir maté d'ailleurs, hein. Ils pensaient avoir maté leur peuple, et maintenant, avec les histoires à la fois de normalisation, mais aussi avec ces histoires d'agression israélienne permanente contre les Palestiniens, d'Al-Aqsa, effectivement, dans Al-Aqsa et dans l'église de la Nativité, font que les peuples se dressent avec violence, effectivement, et avec détermination contre leurs États, les États qui ont normalisé les rapports avec Israël, pour exiger, effectivement, non seulement que la normalisation revienne en arrière, mais aussi le retrait de tous les traités qui ont été signés avec l'État d'Israël, avec cette entité sioniste, et a fortiori, je dirais, aussi avec l'entité palestinienne qui a signé Oslo et qui essaye aussi et qui continue une sorte de coordination sécuritaire avec le pouvoir occupant. Donc, en fait, aujourd'hui, on voit cette levée de bouclier des peuples face à toutes sortes de normalisation d'une part, et puis qui veut aller jusqu'au bout, jusqu'à la libération totale de la Palestine, la libération totale des lieux saints de la poigne fantoche israélienne. On voit aussi même des musulmans se lever et s'élever aussi bien au Pakistan dans d'autres pays qui ne sont pas nécessairement des pays arabes, mais qui trouvent que la question palestinienne est une question cruciale, qu'il est important effectivement de prendre position et qu'aujourd'hui il est important d'arriver à
Merci, Madame
une justice Lamy. Dans cette question. Et jusqu'à la libération du peuple palestinien, la libération de la Palestine.
Merci infiniment.
De là, on peut dire que la fin d'Israël approche. Elle est plus proche qu'on ne peut le penser et qu'ils ne peuvent le penser.
Merci infiniment. Une toute dernière question à M. le professeur Dortiguier. M. le professeur, il nous reste 3 minutes. Alors, concernant l'inaction de la communauté internationale, je vais essayer d'être bref pour la dernière question.
Oui.
Alors, concernant les actions internationales, les actions de la communauté internationale, pourquoi on ne voit pas d'actions sérieuses, de mesures efficaces contre l'entité sioniste, pareil à ce qui s'est manifesté ces derniers temps dans le contexte de la guerre en Ukraine contre la Russie?
Et parce que, justement, tous les moyens d'information et les moyens de pression économique et financier sont contrôlés par les sionistes. Mais je ne dis pas qu'ils sont possédés, mais contrôlés par eux. Et donc, personne ne peut bouger en France, pareil. En France et en Europe, voyez-vous, s'il n'obéit à cette situation-là. Mais cela n'empêche que les faits sont les faits, et que ce ne sont pas des peuples qui n'osent pas réagir, ou des gouvernements qui n'osent pas réagir, qui ne connaissent pas ou ne reconnaissent pas la réalité de ce qui se passe maintenant. Cette réalité, c'est justement non seulement une insurrection populaire, mais une protestation des chrétiens et des musulmans contre l'injustice qui leur est faite continuellement depuis avant la guerre de 40, voyez-vous. Vous connaissez cela, c'est une des conséquences de la déclaration Balfour de 1917. Mmh. Il est temps qu'un jour, justement, à cause des difficultés économiques que nous allons connaître, que l'on connaisse aussi les racines spirituelles des maux que nous subissons, voyez-vous. Et cela, je crois que c'est le rôle des églises, c'est le rôle des consciences, et je fais confiance, encouragé par ce que je vois, à l'AXA, je fais confiance dans cette solidarité des esprits, des religions, de la religion chrétienne et musulmane en premier, voyez-vous. Et je dois dire que les juifs qui sont raisonnables devront également s'écarter d'un fanatisme, n'est-ce pas, qui est absolument horrible et diabolique.
Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue depuis Toulouse, Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales depuis Paris, merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.